France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le chemin est difficile, mais cela vaut la peine d'essayer. Cette phrase est signée Mohamed Jawad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui l'a publiée sur Twitter hier après avoir quitté Biarritz. Sa visite surprise a monopolisé l'attention du G7. Pendant 3 heures à la mairie de Biarritz, il s'est entretenu avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, ainsi que des représentants britanniques et allemands. Il a aussi rencontré Emmanuel Macron. Ses discussions sur le nucléaire iranien ont été jugés positifs par l'Elysée. Les États-Unis n'ont pas souhaité y participer. Et pendant ce temps, des affrontements ont eu lieu à Biarritz, mais aussi à Bayonne et Hendaye entre forces de l'ordre et manifestants. 17 personnes étaient en garde à vue cette nuit après une marche des portraits à Bayonne où plusieurs centaines de personnes ont brandi des photos officielles d'Emmanuel Macron qui avaient été décrochées des mairies. Aujourd'hui, les questions environnementales, climatiques devraient dominer la dernière journée de ce G7 alors que l'Amazonie brûle toujours. Plus d'un millier de nouveaux feux se sont déclarés en moins de 48 heures au Brésil. Hier, la Colombie proposait l'idée d'un pacte régional pour la conservation de cette forêt. Ce pacte sera présenté devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, rattaché aux Nations Unies, demande à la Grèce d'agir sur l'île de Lesbos. Il veut voir transférer dans des lieux sûrs les centaines d'enfants migrants qui vivent dans le camp de Moria. Ils y sont 600, mais devraient être au maximum 160. Samedi soir, un jeune Afghan de 15 ans y a été poignardé à mort. L'actualité en France, c'est la troisième phase de dépollution de Notre-Dame de Paris. Elle va débuter aujourd'hui sur le parvis de la cathédrale. Pour ce qui est des écoles touchées par la pollution au plomb, les travaux ont été effectués. Voilà ce que dit la mairie de Paris. Enfin, notez cette situation préoccupante dans la Creuse à Guéret. La commune est sur le point de manquer d'eau potable à cause de la sécheresse de ces 3 derniers mois.
Le nouveau rendez-vous quotidien d'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi, avec vendredi une balade radiophonique en direct de Berlin. Que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur ? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Dans l'actualité, tous les événements ne se valent pas. Pour comprendre ce qui nous arrive, il faut choisir ses thèmes, mais aussi ses invités pour sortir du flot des commentaires et permettre à un vrai débat de s'installer. C'est ce que tentera de faire chaque soir le temps du débat en faisant se rencontrer le monde des idées et les acteurs de terrain.
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin, de lundi à vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Sur France Culture, en ce lundi 26 août à 6h03, 3 jours de rentrée radiophonique, nous reprenons nos bonnes habitudes avec Toufik Hakem et son réveil culturel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, nouveau cahier, nouveau crayon, nouveau générique pour la rentrée de France Culture et cette troisième saison du Réveil culturel qui commence donc le magazine d'actualité de la pop culture. On y parle de livres le lundi, d'art et d'expo le mardi, de cinéma le mercredi, de toutes les musiques le jeudi et bien sûr de bandes dessinées le vendredi. Et si vous n'êtes pas toujours lève-tôt pour nous écouter à la radio, vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France. Rentrée de France Culture et rentrée littéraire donc, et la bonne nouvelle de cet été et des livres que j'ai emportés avec moi pour les lire, c'est qu'il y a d'excellents premiers romans. Et ce lundi 26 août, ainsi que lundi prochain, on donnera la parole à ces jeunes écrivains qui sortent cet été leur premier livre, où ils décrivent très bien la France d'aujourd'hui, le monde contemporain d'une manière générale, entre crise économique, malaise social, misère sexuelle et remise en cause idéologique, explorant des territoires habituellement oubliés par les auteurs confirmés. Trois invités donc ce matin, trois territoires, trois genres différents. Un été en compagnie d'un adolescent dans un camping familial près de Dax, dans la chaleur, de Victor Gestin, édité chez Flammarion. Une jeune fille violentée qui erre d'un refuge à l'autre dans la ville sinistrée de Toul, dans Une histoire de France de Geoffrine Deladieu, qui vient de paraître chez Gallimard. Et enfin le 77, ce territoire qui n'est ni la ville, ni la campagne, ni la banlieue, et que décrit très bien, et toujours d'un point de vue d'un adolescent, Marin Fouquet, qui sort donc son premier roman, lui, chez Actes Sud. Le réveil culturel avec trois jeunes auteurs, c'est la troisième saison, et c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Trois auteurs qui n'ont pas 30 ans, donc pour ce lundi de la reprise. Geoffrine Deladieu, qui publie dans la collection Blanche de Gallimard Une histoire de France. Marin Fouquet, qui publie chez Actes Sud 77. Et Victor Gestin, qui publie La chaleur chez Flammarion. Et si on commençait par vous, Victor Gestin, mais tout d'abord, bonjour tout le monde.
Bonjour.
On va commencer par vous, Victor Gestin, d'une part parce que vous êtes le plus jeune de ce trio de jeunes, vous avez 25 ans, vous venez de Nantes, même si vous vivez à Paris depuis 5 ans, vous avez fait des études de cinéma, mais en attendant votre premier long métrage, vous publiez chez Flammarion ce premier roman, donc La chaleur, avec dans le rôle principal, si j'ose dire, Léonard, le narrateur, Léonard qui a 17 ans et qui passe ses vacances avec ses parents, son frère et sa sœur, dans un camping des Landes près de Dax. C'est l'été, évidemment, un mois d'août caniculaire, la vie de camping avec ses parties de pétanque, ses cours d'aquagym, ses enfants qui tombent du vélo et qui pleurent, les pins, les dunes, les corps dénudés surtout, les corps dénudés qui sentent le sable et les serviettes humides, et les premiers amours d'été. Alors, premier amour heureux, malheureux, 15 jours, une initiation amoureuse, pas très heureuse d'ailleurs, que vous racontez en 140 pages. Pourquoi ce premier roman d'abord, Victor Gestin?
Bah, il vient, je pense, de souvenirs d'été à la fois heureux et intense, les premières fois, les corps dénudés en effet, les vacances, mais en même temps, je crois, d'une angoisse et d'une violence que j'ai réalisée après coup, liées exactement aux mêmes choses. Et donc voilà, j'ai essayé dans ce livre de mélanger les côtés les plus joyeux avec les côtés les plus sombres de ces vacances estivales en fait. Dans les Landes, en camping, je connais bien cet endroit et j'ai poussé les curseurs de souvenirs, disons, à l'extrême. Voilà, de mettre un adolescent dans cet endroit où tout le monde essaye de s'amuser, de jouir, de danser et le faire enterrer un corps. Alors il se réveille le lendemain et puis il doit se débattre dans ce camping qui lui continue en effet à faire la pétanque, l'aquagym et le karaoké. Donc j'imagine que c'est une façon extrême de mélanger les deux aspects de ces souvenirs que j'ai. Oui.
Et comment est née cette envie d'écrire cette histoire, de vous lancer dans la littérature, Victor Gestin?
Donc j'ai écrit d'autres romans avant celui-là.
Qui n'ont pas été publiés du coup, puisque c'est votre premier roman publié?
Non, ils n'ont pas été publiés, ils sont cachés chez moi.
C'est-à-dire que vous ne les avez même pas proposés?
J'en ai proposé un il y a 3 ans. Et à part ça, non, c'est des choses plus vieilles que j'ai pas envoyées.
Et comment vous expliquez ce désir d'écrire?
Je sais pas, c'est le mode d'expression le plus naturel pour moi, la voix, l'écriture. J'aime beaucoup la musique aussi, donc j'imagine que j'essaye de retrouver ça un peu en écrivant. Voilà, une voix, un rythme. Mais non, vraiment, je vois pas trop d'autres moyens d'expression aussi limpides pour moi.
Vous avez beaucoup lu avant de vous mettre à écrire à votre tour, Victor Gestin?
Bah, j'écrivais avant de lire, je crois, et je m'excusais de ne pas lire en disant que ça me m'aliénerait si jamais je lisais. C'était ma façon de me défausser. Et puis après, oui, j'ai commencé à lire et puis j'ai découvert des auteurs qui m'ont marqué. Et puis là, oui, maintenant, je lis beaucoup.
Ils avaient déjà replié les tentes, il n'y avait plus qu'à partir. L'emplacement vide était insignifiant, c'était un carré d'herbe sèche. Quelque part ici, j'avais passé 15 nuits. 15 fois, je m'étais levé quand les autres dormaient pour sinuer à l'aveugle jusqu'à la haie, pisser,
jeter à la poubelle mon mouchoir de sperme triste et retourner me coucher. De cela, il ne restait rien. Dès le lendemain, peut-être une autre famille prendrait notre place et commencerait ses vacances. Emplacement 330. Le bonheur assuré pour à peine 20 euros la nuit depuis des décennies et pour des siècles et des siècles. Nous avons fixé les vélos sur le coffre et nous sommes montés dans la voiture. Nous avons roulé dans les allées lentement, prudemment, pour ne pas écraser un enfant. C'est un extrait de votre roman La Chaleur, Victor Gestin. C'est la première fois donc que vous partagez vos mots, vos sentiments.
Bah, c'est un adolescent en vacances qui est plongé dans une situation complètement catastrophique et qui, au milieu d'un camping, résiste à cette injonction à être heureux qu'on donne à tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose, je crois, de plus en plus présent à différents endroits de nos vies, en entreprise ou dans les livres de développement personnel. Mais là, je voulais appuyer à cet endroit qui fait mal un petit peu. C'est juste des adolescents en maillot, en vacances. Et de voir ce que ça pouvait, voilà, cette espèce d'injonction à être heureux, à sourire, à danser, à jouir, pouvait, chez certains, faire de dégâts, en fait. Alors, détruire la sincérité, la confiance, la libido et finalement causer des vrais problèmes qui arrivent au personnage. Mais... oui, je crois que c'est cette ambiance-là de vacances qu'on trouve dans un camping ou dans d'autres endroits peut être violente pour certains, et c'est ça ce que j'essaie de raconter aussi. Mais de raconter aussi que c'est super, en fait, les deux. Et par moments, il se met en effet à danser, lui aussi, ou à avoir du désir. C'est vraiment les deux choses à la fois que j'essaie de rassembler.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit un roman contemporain ? Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière de raconter le monde d'aujourd'hui que de raconter cet été, ces 15 jours de camping à travers votre narrateur, un jeune adolescent de 17 ans?
Oui, j'espère. Enfin, j'espère que c'est un roman qui parle d'aujourd'hui. Le camping, c'est un endroit assez intéressant parce que c'est comme une sorte de village global avec ses rues, avec ses rituels. Donc, c'est un endroit qui fait monde un petit peu, comme on dit. Et puis, à l'intérieur de ça, effectivement, y a des choses qui relèvent purement, primairement de la modernité, à savoir cette application Tinder de rencontre, ce langage adolescent qui, moi, n'est pas si lointain pour moi. Donc oui, j'espère bien que ça s'ancre dans aujourd'hui.
Ça vous a pris combien de temps pour écrire ce premier roman, La Chaleur ?
Ça m'a pris environ six mois intenses, avec avant beaucoup de réflexion et après beaucoup de retravail. Le plaisir, c'est surtout le retravail, je crois. C'est ça que je préfère faire.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Ben, j'en écris un deuxième parce que.
Mais pour vivre.
C'est ça. Et j'écris et je travaille sur des longs métrages. J'écris des scénarios que je ne réalise pas, mais je co-scénarise des films. Il y a des courts-métrages qui sont visibles, mais les longs-métrages, il faudra attendre encore un petit peu. C'est un processus encore plus long que la littérature.
Oui, on l'attendra avec beaucoup d'impatience, parce que c'est une belle promesse que votre premier roman, La Chaleur.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Premier roman de la rentrée, et cette fois-ci avec Geoffrine Donadieu. Votre premier roman est lui radicalement encore plus douloureux que celui de Victor Gestin, La Chaleur, puisqu'il s'agit d'une relation pédophile au féminin. Et surtout, c'est l'histoire d'un trauma, une histoire de France. C'est le titre donc du roman édité dans la collection Blanche de Gallimard. Une histoire de France, et ici France, ce n'est pas le pays, mais un prénom, donc une personne, et ce n'est pas le personnage principal, la narratrice, l'héroïne cassée de votre roman, Geoffrine Donadieu, s'appelle Romy. Elle vit dans une ville tout aussi sinistrée par la crise, Toul. Sa base militaire, ses ouvriers et ses marginaux, les zonards du canal. Parlez-nous de Romy.
Bon, Romy, c'est une fillette qui a des rêves, des envies, des rêves de paillettes, des rêves de monter sur scène, qui aime jouer à la poupée, au Barbie, qui va à l'école. Mais c'est une petite fille qui mène une guerre, très seule, contre France, qui est sa voisine, et contre son corps, contre la vie, contre son environnement. Romy est abusée par sa voisine, qui est une femme de militaire. Je dis ça parce que c'est important. Elle vit dans un immeuble réservé aux familles militaires parce que son papa est militaire.
Et donc souvent absent.
Souvent absent. Comme sa maman, mais qui est absente pour d'autres raisons, parce qu'elle est malade et elle est souvent à l'hôpital. Donc le seul moyen de la garder, c'est par France, c'est la voisine qui habite dans l'immeuble à côté.
J'ai parlé de traumatisme, mais c'est encore plus ambigu que ça, l'histoire de Romy, Geoffrine Donadieu, parce que elle est peut-être en guerre contre celle qui l'a violée, mais elle est aussi attachée à cette femme.
Oui, parce que c'est probablement compliqué pour cette petite fille, c'est ambigu. Elle est seule, il y a une place à prendre et France lui donne de l'amour, lui donne de l'attention et Romy va forcément s'attacher à cette personne. Elle représente un être féminin dans sa vie. Et je pense surtout qu'elle va sublimer cette histoire pour vivre, tout simplement, pour survivre, parce que Romy, elle survit.
Et c'est une occasion pour vous, Geoffrine Donadieu, de dresser aussi le portrait d'une ville sinistrée. Hein. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va suivre Romy qui va chercher des refuges, des toits pour dormir. C'est autant d'occasions pour voir tout à la fois la misère sexuelle et la crise sociale qui frappe cette ville.
Oui, c'était le moment parce que il y a quand même dans l'Est, on est quand même sur le territoire de 14-18. J'en fais référence quand même du début à la fin. Il y a quand même un impact parce que cette guerre, elle est quand même là. Elle est dans l'Est. Elle a beau être passée, toutes les sorties scolaires, tous les voyages, on nous la remémore. Puis il y a toutes ces usines qui ferment, il y a toutes ces casernes qui ferment. Donc c'est le paysage est assez gris.
Et puis aussi, c'est un roman sur les nouvelles sexualités, on peut le dire.
Oui, parce que Romy va aller sur les réseaux sociaux, va découvrir son premier rapport pour le coup avec un homme, ça va être avec un homme qu'elle trouve sur les réseaux sociaux. C'est très vite, c'est rapide c'est une nouvelle époque.
Une histoire de France, un extrait lu par l'auteur Geoffrine Donadieu.
Joli cœur tatoué et en ligne. Déjà 5 mois qu'ils se parlent. Combien de fois l'a-t-il sauvé de ses pensées tourmentées? Ils passent en revue leurs passions, leurs désirs de voyage, leurs questions existentielles. Romy s'est confiée, lui a expliqué son absence quand elle était à l'hôpital, ses crises d'angoisse. Elle se sent proche de lui. Et pourtant, il tourne en rond, répète les mêmes mots. Joli cœur tatoué souhaiterait une relation plus profonde. À quoi ça sert de discuter tous les soirs? On se raconte nos vies alors qu'on ne se verra peut-être jamais, autant arrêter? Je suis un mec bien, tu peux me faire confiance. Il lui met la pression, il joue avec le silence, se connecte, ne se manifeste pas toujours. Romy patiente, il finit par revenir avec des désirs à assouvir. J'ai besoin que tu me chauffes un peu, je parle avec d'autres filles moins coincées, tu sais. Romy est piégée, joli cœur tatoué pose les questions. Pour lui répondre, elle s'inspire des commentaires trouvés sur les sites érotiques.
Cette misère sociale aussi qui passe par une nouvelle sexualité où tout le monde a l'impression de pouvoir rencontrer qui il veut, mais où chacun reste très seul et très frustré.
C'est vraiment en parallèle. Hein. Il y avait aussi bien l'histoire de Romy et de France, mais il y avait tout ce contexte social. Enfin, je pouvais pas les dissocier. Il y avait une réelle envie d'écrire tout cet univers et cette histoire. Qui est une histoire d'amour, en fait partie, et fait partie de cet univers.
Et vous connaissiez cette ville? Vous avez une histoire particulière avec Toul?
Oui,
Geoffrine Donadieu?
Oui, je connais cette ville pour la simple raison que j'y ai fait j'y ai vécu, parce que j'ai eu l'occasion d'y habiter 6 ans environ, et puis pour écrire, et un premier roman, écrire des lieux que l'on connaît, c'est quand même... Plus simple pour mettre une histoire et la dérouler, je dirais.
Ça fait longtemps que vous avez commencé à écrire ce roman, Geoffrine Donadieu?
Oui, après j'ai eu 9 mois de réflexion, d'entretien, d'interview, de témoignages. Après il y a eu 9 mois d'écriture, mais je pense qu'il y avait encore...
C'est parti d'une enquête donc, cette écriture de roman?
Oui.
Vous avez rencontré qui pour écrire une histoire de France?
Bon, déjà, des honnards du canal, des gens qui ont travaillé à à Kléber, dans les usines, donc dans l'Est, des militaires, des petits soldats inconnus, des gueules cassées, des enfants, parce que je mets en place des ateliers artistiques en psychiatrie. Donc par conséquent, je rencontre beaucoup d'enfants qui ont des histoires à raconter. Et puis j'avais très envie d'écrire autour de ce silence, de ces non-dits, de l'étouffement de tous ces enfants. Et on retrouve plusieurs portraits en Romy. Romy, c'est une mosaïque de portraits de petites gueules cassées.
Et puis enfin, Geoffrey Donadieu, cette envie d'écrire, comment vous avez fait pour vous faire éditer par Gallimard ?
C'est un peu comme Victor. C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 6 ans. J'adorais raconter des histoires que j'échangeais contre des Kinder à la cour de récréation. Et puis ça ne m'a jamais quittée. Et puis après, j'ai fait du théâtre, non pas pour être sur scène et pour être comédienne, mais parce que j'avais envie d'écrire. Et puis un jour, voilà, j'ai tenté ma chance. J'ai écrit ce roman, j'ai envoyé à Jean-Marie Laclaftine et puis c'était parti.
Que vous connaissiez ?
Oui, parce que j'avais fait les ateliers Gallimard, des ateliers d'écriture. Et puis mon histoire a commencé à vivre dans ces ateliers, et puis c'est parti.
Une histoire de France, c'est édité chez Gallimard, vous venez de le dire. Geoffrey Donadieu, vous restez avec nous. Premier roman de la rentrée et enfin un autre territoire de la France tout aussi marqué par la crise, le 77. Cet entre-deux improbable entre la ville et la campagne, entre boue et bitume. On dit d'abord 77, c'est le titre du premier roman de Marin Fouquet, édité par Actes Sud, mais dès les premières pages, on rectifie le titre. Et ça devient 7-7, comme disent les protagonistes du livre et son narrateur. Alors ce narrateur, Marin Fouquet, celui qui se livre à nous à partir de son territoire, sous la brébus, sous sa capuche, lui qui regarde passer les voitures de toutes les couleurs, lui qui nous raconte son monde, sa carte d'identité étant son territoire, lui toujours enfant et déjà menacé par l'âge adulte, perdu entre les codes de l'amour et de l'amitié, entre le genre et la sexualité, ce narrateur, c'est qui ?
Ce narrateur, c'est une voix. C'est une voix qui est sous une capuche au fond d'un abribus. C'est pas moi, c'est un territoire. C'est une voix qui est, j'ai voulu écrire une voix qui était assez puissante pour englober le territoire qui était face à lui. Une voix qui pouvait rivaliser avec ce torrent de boue qui allait potentiellement l'engloutir. C'est le portrait d'une génération. C'est une voix au milieu d'un territoire oublié pour une génération d'oubliés. C'est tous les galériens et les galériennes de fond d'abribus et de fond de capuche.
7-7 donc, extrait. Lui par l'auteur, Marin Fouquet.
Notre rue à tous, puisqu'il n'y a qu'une rue à notre hameau. Notre hameau, c'est la Turelle, comme ça qu'on l'appelle. Du coup, nous qui y habitons, on est les Turiaux. Notre village, c'est Vernoux-la-Celle-sur-Seine. On est donc des Turiaux de Vernoux-la-Celle-sur-Seine, du sud 7-7, dans le 7-7 qui est pas Paris. Là, c'est précis. Les Turiaux, à part nous six à l'arrêt de car, c'est surtout des vieux. Vieux qui bavent, vieux qui rôdent, vieux qui hantent, vieux qui rôtent, vieux qui puent, vieilles ombres fenêtres éclairées par les halos de télé, vieilles carcasses qui traversent l'unique rue pour l'heure du thé, vieux divagues, vieux qui se perdent ou leurs vieux pieds se prennent dans les fissures de la rue. Ils trébuchent, vieilles fissures qui courent, qui courent, qui courent, qui courent, qui courent jusqu'à la terre. Bonne terre grasse du 7-7, parfois vieille, parfois jeune, dépend de comment le père Mandrin la retourne. Le père Mandrin, ici, c'est le seul vieux qui bosse encore. Et nous six qui attendons chaque matin à l'arrêt de car, on est les jeunes. La jeunesse, il dit, l'avenir, les forces vives, pour protéger notre hameau, notre rue, notre terre, la protéger de Paris. Paris, ça gagne du terrain, il dit, ça bétonne et ça bétonne, ça bétonnera jusqu'à nous. Bientôt, bouffera notre rue.
Marin Fouquet, pourquoi vous avez écrit ce premier roman, ce premier texte, 7-7 ?
J'avais ce désir d'écrire un roman, mais je me posais la question de la légitimité. Qui est-ce qu'on est pour écrire ? Qui je suis pour écrire ? Et donc du coup, d'où est-ce que je suis pour écrire ? Et le territoire que je connaissais le mieux, c'était ce territoire de 77. Et donc j'ai voulu partir de là, de ce territoire que j'arrivais pas bien à saisir. Pendant très longtemps, j'ai considéré que c'était un non-lieu, que c'était un territoire sans aucune identité. comparément par exemple aux personnes, enfin aux territoires par exemple qu'on dit de banlieue avec des gros guillemets, qui me paraissaient avoir une identité très forte, ou les territoires qu'on dit de province, qui me paraissaient avoir une identité très forte aussi à défendre. Ou alors Paris, la capitale, qui était une identité très brillante et très reluisante pour moi. Et donc le 7-7, c'était au milieu de tout, et donc c'était rien. Et j'ai voulu d'abord parler de ce rien, puis je me suis rendu compte que ce rien, c'était beaucoup de choses. C'est là d'où je viens, donc bien sûr, ouais, c'est heureusement et malheureusement ma terre. Ouais.
Pourquoi malheureusement?
Parce que la pièce de Monet a deux faces, et bien sûr qu'il y a des côtés comme ça, beaucoup de choses qui viennent, je crois, de là. Peut-être une méfiance, peut-être une... je sais pas.
Pourquoi le narrateur n'a pas de nom dans votre roman, Marin Fouquet?
Parce que ça me paraissait pas nécessaire qu'il en ait. J'ai essayé d'aller justement... j'ai essayé d'avoir la langue la plus fournie, la plus riche possible, et en même temps aller au minimum de ce qu'impose normalement le récit. Il n'avait pas besoin de nom, il existait déjà beaucoup trop.
Qu'est-ce que vous lui avez prêté à ce personnage?
Ce que je lui ai prêté, ouais, de moi, il y a ce questionnement-là, ce questionnement, je vous ai parlé tout à l'heure du questionnement de la légitimité, qui est-ce que je suis pour écrire, et ça c'est une question que je pense qui me travaille toujours, et je crois que c'est intéressant de se la poser lorsqu'on écrit, qui est-ce qu'on est pour écrire. Et de la même manière, il y a cette question qu'a ce narrateur, qui est... comment est-ce qu'on devient un homme?
Un bonhomme.
Un bonhomme, exactement. Mm-hmm. Un vrai bonhomme. C'est quoi cette injonction à la virilité? C'est quoi ce truc qu'on fourre dans la tête des petits garçons de... C'est comme ça que tu vas être. Et avant ce désir qu'on nous donne d'être un petit garçon, d'être un vrai bonhomme avant d'être quelqu'un, plutôt que d'être quelqu'un. Mm-hmm. De coller à ces carcans-là, avant de se poser la question de qui est-ce que je suis vraiment. Et je reste persuadé que personne ne veut être vraiment ce super viril. Ça n'existe pas. Et que c'est un désir qu'on nous colle comme un but à aller chercher qui est inatteignable.
C'est qui vous le colle? C'est l'école? C'est les médias?
Non, je crois pas que ce soit le rap. Le rap, a assez porté le chapeau. Le rap, il a assez porté le chapeau. Je crois qu'on peut arrêter.
Pourquoi? Vous êtes passé par là aussi?
Oui, mon désir d'écriture, il vient de... raconter des histoires, et puis très vite il est venu de vouloir écrire du rap. J'étais fasciné par cette langue. Je dis cette langue parce que c'est une scansion, c'est un rythme, c'est cette langue comme on pourrait dire du jazz que c'est une langue. J'étais fasciné par cette scansion, par ce souffle. Et sauf que j'arrivais pas à le faire. Je crois un piètre rappeur. Et je dépassais de ce cadre, et puis je dépassais de ce rythme, et puis ça devenait de plus en plus de la poésie, puis c'est devenu de la poésie, poésie sonore, et puis les textes sont devenus de plus en plus longs, et puis c'est devenu des textes que j'ai dit sur scène, et puis c'est devenu des textes tellement longs que sur scène ça tenait plus, et puis j'ai eu envie d'écrire du roman.
27 ans vous avez, Marin Fouquet. Qu'est-ce que vous faites pour vivre?
Alors, je donne des ateliers d'écriture dans des collèges, dans des facs, dans des MEX, dans des CFA. Et aussi là, je ressors de 6 mois de manutentionnaire dans un entrepôt en tant que manutentionnaire. Actes Sud, et plus précisément Marie Demeur, mon éditrice, m'a permis de sortir de cet entrepôt, en quelque sorte.
Est-ce que vous êtes un grand lecteur, Marin Fouquet?
Non, je ne suis pas du tout un grand lecteur.
Ouais.
Je suis un grand écouteur. J'ai écouté beaucoup de rap français, du rap américain aussi. Je suis un très très grand écouteur aussi de la chanson française. Je lis aussi, mais je suis surtout un grand écouteur.
Cette 7 de Marin Fouquet est édité chez Actes Sud. Une histoire de France de Geoffrine Denadieu est édité par Gallimard. Et enfin, La chaleur de Victor Gestin, c'est édité par Flammarion. Lundi prochain, on continue à parler des premiers romans de la rentrée avec 3 auteurs tout aussi jeunes. Merci beaucoup Geoffrine Denadieu, Marin Fouquet, Victor Gestin d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Et bonne chance à vous.
Merci.
Merci.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr, et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Tous les lundis, on parle de littérature dans le Réveil culturel, et tous les mardis, on parle des expos. Demain, on parlera de cette grande expo à Marseille, au Mucem, consacrée à Dubuffet. Belle matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Découvrir, décrypter, partager, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
30 ans après 1989, la chute du mur et l'effondrement du système communiste, un invité exceptionnel dans les matins. Ce lundi, je reçois Francis Fukuyama, le politiste américain qui avait théorisé, il y a 30 ans, la fin du bloc de l'Est.
Les matins de France Culture, ce lundi dès 7h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Près de 43 000 soldats, deux avions Canadair. Le Brésil commence enfin à lutter contre les milliers d'incendies qui touchent en ce moment la forêt amazonienne. Nous irons sur place dans un instant. Nous rejoindrons ensuite notre correspondant à Biarritz où se poursuit le G7. Hier, le ministre des Affaires étrangères iranien y a fait une apparition surprise. Coup politique ou avancée diplomatique, nous verrons cela. Dans ce journal encore, nous ferons le point sur la colère syndicale dans l'enseignement en France. Le ministre de l'Éducation nationale rencontre les partenaires sociaux en ce début de semaine. Et puis la fin du soir 3 a sonné. Hier soir, le journal nocturne de France Télévisions sera désormais diffusé sur France Info. Colère des salariés de France 3, vous l'entendrez dans moins de 10 minutes. L'Amazonie brûle depuis des semaines maintenant et l'État fédéral brésilien entre enfin, si l'on peut dire, en action. Deux avions ont commencé hier à larguer des dizaines de milliers de litres d'eau sur les flammes qui ravagent la forêt tropicale, sur ordre du président brésilien Juliette Onça.
Face aux critiques internationales, Jair Bolsonaro veut prouver qu'il a pris au sérieux le drame qui est en train de consumer la forêt amazonienne. Depuis deux jours, 44 000 militaires sont mobilisés dans six états d'Amazonie brésilienne. Deux avions Hercule C-130 avec une capacité de 12 000 litres d'eau survolent la forêt. Depuis le début du mois d'août, près de 80 000 nouveaux foyers ont été recensés au Brésil. C'est 84% de plus par rapport à la même période en 2018. Alors, qui est responsable? Selon Bolsonaro, ce sont les ONG, mais aussi la sécheresse. Le président a d'abord nié et relativisé l'étendue de la catastrophe. Rappelons-le, le Brésil ne fait pas partie du G7 et pourtant, ce week-end, le sort de la plus vaste forêt tropicale était l'un des dossiers clés du forum à Biarritz. Emmanuel Macron a promis d'aider le plus rapidement possible les pays affectés par les incendies tout en disant respecter la souveraineté du Brésil, sachant que la Guyane française, frontalière du géant sud-américain, est elle aussi en Amazonie. Sur Twitter, Bolsonaro a adressé un grand merci aux dizaines de chefs d'État qui aident à dépasser une crise qui intéresse ceux qui veulent affaiblir le Brésil, fin de citation. Une déclaration qui vise indirectement le président français qui avait qualifié son homologue de menteur. Hier, Israël a aussi proposé l'envoi d'avions pour soutenir l'effort du Brésil dans sa lutte contre les incendies.
Juliette Onça depuis le Brésil pour France Culture. Juliette qui évoquait le G7, il se tient depuis deux jours à Biarritz. La réunion internationale a été hier bousculée par la venue surprise du ministre iranien des Affaires étrangères. Une visite express orchestrée par Téhéran et par Paris, Bertrand Galichet.
2h30 de conversation entre Mohamed Javad Zarif et son homologue français Jean-Yves Le Drian, puis une trentaine de minutes avec Emmanuel Macron en personne à la mairie de Biarritz, à 200 mètres des réunions du G7. Un entretien en présence de Bruno Le Maire, venu en voisin, et de conseillers allemands et britanniques. Ces discussions positives vont se poursuivre sur l'Elysée, qui avait préparé cette séquence dans le plus grand secret. De la rencontre à l'Elysée vendredi entre le ministre iranien et le président français, jusqu'au dîner inaugural du G7 avant-hier, où les participants ont été informés, en passant par le déjeuner en tête-à-tête Macron-Trump samedi à l'hôtel du Palais. Le président américain n'a pas mis de veto à cette invitation, mais s'est autorisé une mise au point sur le rôle que la France entend jouer au nom du G7, obligeant Emmanuel Macron à rappeler le caractère informel de ce cénacle. Réaction prudente du ministre iranien dans un tweet après cette rencontre en marge du sommet. Le chemin est difficile, mais cela vaut la peine d'essayer.
Il reste maintenant à savoir quelle sera la réaction de Washington qui pour l'instant ne bouge pas. Les présidents Donald Trump et Emmanuel Macron tiendront une conférence de presse commune cet après-midi pour conclure ce sommet du G7. Le nucléaire iranien, la protection de l'Amazonie, voilà deux des principaux sujets qui auront occupé les dirigeants des sept plus grandes puissances. Ils ont toutefois reçu une lettre depuis le Venezuela. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, leur demande d'évoquer la crise qui secoue son pays. Il espère une action commune qui permettrait, écrit-il, de prendre des sanctions contre le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro. Le Hezbollah menace Israël de représailles après une attaque au drone au Liban. Attaque survenue avant l'aube dans la banlieue sud chiite de Beyrouth. L'État hébreu annonce seulement de son côté avoir bombardé samedi soir des cibles en Syrie voisine pour empêcher, selon lui, une attaque iranienne de drone contre son territoire. En bref, encore et pour la première fois, un policier a utilisé son arme à feu hier à Hong Kong. Des tirs de sommation contre des manifestants pro-démocratie. Autre première fois, les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau, un recours justifié selon la police. Depuis 3 mois maintenant, une partie des Hongkongais s'oppose à l'influence grandissante de la Chine sur leur région semi-autonome. Si la rentrée radiophonique a lieu ce matin, et notamment sur France Culture, le retour en classe pour les élèves, elle, aura lieu la semaine prochaine. Cette rentrée scolaire préparée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il reçoit dès aujourd'hui et demain les syndicats, d'abord ce matin la FSU, car les tensions sont grandes après la loi Blanquer et la réforme du baccalauréat à Kim Kasmi.
La trêve estivale est loin d'avoir apaisé les syndicats qui menacent déjà de faire grève en septembre. Principale revendication, la réforme du bac qui va entrer en vigueur à la rentrée pour les élèves de première. Le SNES, principal syndicat du secondaire, demande une refonte et plus de transparence, notamment sur les spécialités que pourront choisir les élèves, si en théorie le ministère en garantit au moins 7 au choix dans chaque établissement. Cela ne sera pas le cas partout, avec parfois même des classes qui vont être fermées faute d'effectifs suffisants. Les effectifs reste un sujet très sensible car 2600 postes vont être supprimés dans le secondaire dès la rentrée, alors que la majorité des classes au lycée ont encore 35 élèves par classe. Autre sujet de discorde, la formation des enseignants. Avec la réforme, ils devront désormais passer le concours d'entrée en Master 2, ce qui risque encore d'accroître la crise des vocations. En effet, de nombreux postes restent non pourvus au concours, notamment en langue, en maths et dans le primaire. Le primaire, autre chantier prioritaire d'Emmanuel Macron, qui souhaite 24 élèves par classe en élémentaire, en CP et en CE1 dès la rentrée 2020. Mais avec quels moyens, s'interroge le SNUIPP. D'autant que le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire est très gourmand en enseignants. Enfin, les partenaires sociaux attendent des réponses concrètes en matière d'augmentation, nos professeurs étant en dessous de la moyenne de l'OCDE au niveau salarial.
Voilà donc pour un chantier du gouvernement qui a déjà été lancé il y a plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, c'est une autre réforme qui va être examinée, le projet de loi relatif à la bioéthique. Il passe devant une commission spéciale de l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui, lundi donc. 72 députés vont s'y pencher, ils viennent d'horizons divers et sont membres de différentes commissions permanentes, affaires sociales, affaires culturelles et éducation, mais aussi défense ou développement durable. Tous ont jusqu'au 5 septembre prochain pour se familiariser avec le texte et se forger une opinion sur les 32 articles proposés. Le débat à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle est prévu le mois prochain. Le journal d'information nocturne de France Télévisions, Soir 3, tirait hier soir sa révérence. La fin d'un rendez-vous vieux de 40 ans au profit d'un même rendez-vous d'information à 23h également sur la chaîne France Info, sur le canal 27 de la TNT. Ce choix stratégique de France Télévisions ne passe pas auprès des équipes de France 3 qui sont en grève aujourd'hui. En grève notamment le journaliste Serge Simino. Il est délégué syndical du SNJ et il s'explique.
Si France Info arrive par ce apport éditorial à faire monter ses audiences, tant mieux. Mais je rappelle quand même qu'en moyenne, cette tranche-là aujourd'hui, c'est 25 000 téléspectateurs et que l'objectif déclaré de la direction, c'est d'arriver à 50 000. Leur but, c'est d'être au niveau des chaînes info qui sont effectivement assez importantes sur ce créneau de 23 heures. Donc en fait, l'ambition n'est pas de retrouver les téléspectateurs du soir 3, c'est d'en récupérer une toute petite partie pour être au niveau des autres chaînes info. Donc bien évidemment que c'est un gros sacrifice, et quel sacrifice ! On dit peu importe les 800 000 à 1 million de téléspectateurs qui pouvaient regarder le soir 3 de manière ponctuelle. Nous, notre objectif, c'est de concurrencer les autres chaînes info. Mais c'est une erreur industrielle. On voit bien que France 3 dans cette affaire ne pèse pas grand-chose et que l'objet convoité par la présidente, qui est la réussite de France Info, est la seule priorité. Et ça, c'est dramatique parce que ce ne sont pas des emplois qui sont menacés, c'est l'information qui est menacée.
Le journaliste au sein de France 3, Serge Siminaud, délégué syndical du SNJ, il répondait à Bastien Roch pour France Culture. Quelques bandes brouillard sont annoncées sur toute la façade ouest ce lundi, entre nuages et éclaircies. Partout ailleurs, un grand et chaud soleil va briller avec des températures toujours hautes. Comptez dès ce matin 19 degrés à Brest, 25 à Besançon, 25 également à Lyon, 27 degrés à Lille, Paris et Bordeaux, 29 degrés à Nice ce matin, entre 25 et 34 degrés cet après-midi du nord au sud. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons à 6h40 sur France Culture. Jacques, pour votre journal des idées qui est de retour en cette rentrée. Et au seuil d'une semaine spéciale sur France Culture, 30 ans après la chute du mur de Berlin, vous faites le point sur l'évolution de la démocratie dans le monde, Jacques.
Oui Clara, et le bilan est mitigé. S'il est vrai que de nombreuses dictatures ont disparu, que des progrès ont eu lieu du point de vue sociétal, notamment dans les vieilles démocraties, on peut s'inquiéter de la montée de régimes autoritaires partout dans le monde et surtout de l'érosion de l'idéal et des institutions démocratiques dans les pays où il s'était développé. Dans Mediapart, Fabien Escalona estime que depuis 1989, les démocraties redécouvrent leur fragilité. Il cite le dernier rapport de l'ONG Freedom House qui observe que les régimes issus de cette dernière vague de démocratisation apparaissent particulièrement vulnérables, en particulier ceux issus de l'ancien bloc soviétique. Mais le rapport enregistre également un recul global des libertés depuis des années. Chaque année, le nombre d'États dont l'indice s'est dégradé s'est révélé supérieur au nombre d'États dont l'indice a progressé. Pour Seva Gunitsky, chercheur en relations internationales à l'Université de Toronto, les incitations à un changement de régime ne sont que temporaires lors des chocs hégémoniques dans l'ordre international. Maximal pendant le temps court des transitions, ces incitations perdent en intensité pendant le temps long des consolidations. Et dans l'intervalle, tous les facteurs qui avaient jusqu'alors freiné une démocratisation autonome ressurgissent. Selon lui, la démocratie s'est diffusée par pics successifs à la faveur de chocs hégémoniques, c'est-à-dire de modifications brutales de la hiérarchie du système international. C'est pourquoi certains spécialistes des relations internationales mettent aujourd'hui en garde contre la possibilité d'un monde tripolaire. Les rivalités des États-Unis, de la Chine et de la Russie, avec une zone d'influence pour chacun dans un contexte de course aux armements relancée, pourraient faire vivre un âge d'instabilité permanente aux autres nations, ce qui ouvre des perspectives de promotion démocratique bien sombres dans un monde exposé par ailleurs à des problèmes énergétiques, sanitaires et migratoires en raison du dérèglement climatique. D'autant plus que, souligne Fabien Escalona, la perte de légitimité d'une classe politique acquise à la mondialisation néolibérale a incité de nombreux responsables de droite à prendre un virage identitaire afin de diriger les frustrations populaires contre les minorités, les corps intermédiaires et la gauche cosmopolite, mais sans toucher aux prérogatives des milieux d'affaires et des détenteurs de capitaux, lesquels se sont d'ailleurs employés à réduire la marge de manœuvre des citoyens dans l'espace public ou dans les entreprises, sans pour autant idéaliser la démocratie des Trente Glorieuses, dont les compromis sociaux avaient aussi leurs exclus. La classe politique de cette époque, ayant vécu la Grande Dépression et confrontée à la menace soviétique, savait que la démocratie ne tirait pas son attractivité et sa stabilité du seul respect des procédures, état de droit, élections libres, ni même du seul avènement de la société de consommation. L'élargissement inédit de l'état social et l'égalisation des conditions participaient de l'assimilation des masses citoyennes à ce type de régime. Mais la valeur symbolique du déclin de l'hégémonie soviétique qui a abouti à la chute du mur de Berlin reste active, comme on a pu le constater à Hong Kong ce 23 août dernier, lors de la manifestation organisée en une immense chaîne humaine en souvenir de celle formée le 23 août 1989 dans les pays baltes. Ce jour-là, rappelle Frédéric Lemaître dans Le Monde.fr, pas moins de 2 millions de personnes reliaient les 687 kilomètres séparant Tallinn en Estonie de Vilnius en Lituanie afin de réclamer l'indépendance des pays baltes. L'initiative était aussi une sorte d'appel du pied aux démocraties occidentales pour obtenir leur soutien face à Pékin. Et comme le précise Lucas Bution dans le Figaro Vox, cette journée marquait pour les pays baltes le 50e anniversaire de la signature du pacte germano-soviétique, le traité qui établissait les sphères d'influence respectives du Reich nazi et de l'URSS et qui actait la fin de leur indépendance. Restons dans la symbolique des dates. 1989 est aussi l'année de la répression de Tiananmen et de la dérive assumée du régime chinois vers une combinaison inédite de dictature du parti unique et de capitalisme d'État. Dans l'ordre international, si la Chine parvenait au sommet, elle pourrait provoquer une vague antidémocratique. Le mensuel Books publie un texte de l'éminent professeur de droit constitutionnel Xu Zhangrun qui lui a valu destitution de son poste et qui rappelle notamment que les seuls progrès réalisés dans son pays concernent des choix individuels qui n'ont pas de dimension politique. Consommer toujours plus et protéger autant que possible sa vie privée est devenu la seule ambition citoyenne. Vous écoutez France Culture, vous faites bien, il est 6h45, bonjour, bonjour,
bonjour Jacques Millet.
Julie Gacon.
Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes.
On vous retrouve désormais tous les matins pour les enjeux internationaux.
Eh ben oui, je suis très heureuse à l'idée de passer chaque matinée de cette nouvelle année avec vous de 6h45 jusqu'à presque 7h pour faire un tour du monde des enjeux internationaux que Xavier Martinet a pendant 2 ans assuré avec beaucoup de rigueur et de curiosité et bien sûr Thierry Garcin avant lui. Alors d'un jour à l'autre, on changera de focale pour considérer à la fois des questions locales d'un continent à l'autre et de grands enjeux macro, comme on dit, pour comprendre comment les premières s'inscrivent dans les seconds. Et on commence large ce matin avec Pierre Grosser. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir pour cette première de l'année. Vous enseignez l'histoire des relations internationales à Sciences Po et c'est votre regard sur le G7 qui se tient encore pour quelques heures à Biarritz, qui nous intéresse ce matin depuis le temps, Pierre Grosser, que vous les suivez, ces sommets internationaux, qu'ils soient à 7, parfois à 8, à 20 ou plus. Est-ce que vous en attendez encore quelque chose? Est-ce que ça vous intéresse toujours?
Oui, ça intéresse toujours, je pense, les spécialistes de relations internationales, mais visiblement, ça intéresse beaucoup plus largement parce que les conséquences de ces sommets, nous les vivons. C'est-à-dire qu'il y a à côté des grandes discussions entre chefs d'État, ce que l'on voit le plus souvent, il y a derrière cela toute une ingénierie pour essayer d'améliorer quand même la vie du monde. Alors on peut toujours trouver que c'est pas assez, mais il y a un certain nombre de programmes sur les questions d'éducation, sur les questions de santé, sur les questions d'environnement, qui sont scrutés par un certain nombre de bureaucrates et même des universitaires. On parlait du Canada tout à l'heure, il y a des universitaires au Canada qui essayent de suivre les engagements qui ont été pris par les membres du G7 et qui montrent que, évidemment, on a progressé sur un certain nombre de sujets, par exemple sur l'aide à l'éducation dans les pays du Sud, qui sont des enjeux importants. Et là, il y a une inflexion qui est donnée depuis un moment, et d'ailleurs Boris Johnson, en descendant de l'avion, l'a rappelé, sur notamment l'éducation des jeunes filles.
Alors oui, on pourrait prendre tous les sujets qui ont été abordés dans les G7, tous les engagements qui ont été pris, que ce soit sur l'éducation, où effectivement beaucoup d'écoles ont été ouvertes, notamment en Afrique, et aujourd'hui gratuites pour les élèves, mais avec quelle éducation, quelle politique éducative derrière ça. François Bourguignon, par exemple, posait la question ce week-end dans Le Monde, était un petit peu sceptique là-dessus. Les engagements pris pour réduire les inégalités, les engagements pris pour réduire aussi les émissions de CO2, autant d'engagements dont aujourd'hui on a peine à mesurer les conséquences.
Oui, alors le problème, si vous voulez, c'est que la grande différence avec d'autres formes de diplomatie, c'est que dès le départ, les questions du G7 ne touchent pas des questions purement diplomatiques. C'est-à-dire que, en fait, on a essayé au départ, quand ça a été créé, alors on dit souvent, évidemment, nous on est très fiers que les Français, que c'est Valéry Giscard d'Estaing, en fait, ça a été aussi une idée américaine qui a commencé, qui a monté en force à partir de 1973, c'était de faire face à la crise économique avec, évidemment, des enjeux monétaires, des enjeux aussi parce qu'il y avait une crise énergétique, donc, évidemment, sur la question du pétrole. Et donc, tout ça avait des conséquences, j'allais dire, sur le citoyen. Et aujourd'hui, la grande difficulté de faire de la gouvernance globale, je suis désolé d'utiliser ce terme qui paraît parfois un tout petit peu bizarre, mais la gouvernance globale, c'est de gérer aussi des préférences collectives, de gérer les sociétés. Et donc là, vous vous rendez bien compte que par rapport au fait d'essayer de gérer la paix et la guerre, de quoi est-ce qu'on s'occupe ? On s'occupe de questions sociales, de questions environnementales. Et ces questions sociales et environnementales, d'un pays à l'autre, vous voyez bien qu'il y a des groupes d'intérêts qui sont différents, vous avez des enjeux qui sont différents parce qu'il y a des traditions différentes, parce qu'il y a des arrangements sociaux qui sont différents. Donc vous comprenez bien que c'est beaucoup plus difficile de faire avancer les choses par rapport à des dossiers diplomatiques purs sur des questions sociétales. Et donc c'est pour ça qu'on peut être toujours un tout petit peu déçu que ça aille pas assez vite. Puis il faut aussi tenir compte d'un peu d'un changement, si vous voulez, de mentalité. C'est qu'aujourd'hui on a tendance à dire attention, il y a des défis considérables. Là on l'a vu pour l'Amazonie, hein, vous voyez, les réseaux sociaux sont enflammés, etc. Or on attend face à cela des solutions simples. On a l'habitude maintenant, quand on a un problème, d'avoir des solutions one click. Hein, vous appuyez sur votre application et hop, tout d'un coup, vous résolvez votre problème. Et on est impatient. Or, ce sont des grands problèmes, les problèmes d'éducation et de santé, qui demandent un temps très long.
Que ce soit les feux en Amazonie, mais aussi, parce que c'est un sujet celui-ci n'a pas été beaucoup abordé au G7, les manifestations réprimées à Hong Kong, alors que hier un policier a tiré sans faire de victimes sur la foule, mais sans non plus que ça fasse frémir ou réagir le moins du monde les dirigeants du G7. Sur ces questions-là, ainsi que les feux en Amazonie, qui sont évidemment deux sujets très différents, mais est-ce que c'est la diplomatie telle qu'elle est exercée au G7, une diplomatie entre États, qui peut avoir la solution? Ou des initiatives qu'on voit se mettre en branle dans l'urgence ici et là, Christiane Taubira et d'autres qui appellent à une conférence de donateurs sur l'Amazonie. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment encore espérer quelque chose de la diplomatie ?
Alors, ce qu'on pourrait appeler des faits divers mondiaux, hein, ont des conséquences parce que ça crée des mobilisations, hein, ça crée des fenêtres d'opportunité parce que ceux qui poussent des dossiers disent « Regardez, il se passe des choses très graves » et je pense que c'est ce qui s'est passé lors de ce G7. Mais il faut rappeler, par exemple, qu'en 87-88, 1900, ça paraît loin maintenant, mais il y avait eu aussi des feux en Amazonie et on a commencé à faire monter finalement la question de la gestion des forêts à la fin des années 80, début des 90. Il faut bien voir que la première grande conférence sur les questions environnementales a eu lieu à Rio en 1992. Et à l'époque, il faut bien voir que le Brésil avait à peu près le même discours qu'aujourd'hui, c'est-à-dire d'expliquer qu'ils étaient souverains sur leur territoire, qu'ils ne voulaient pas que l'Amazonie soit mise sous cloche pour la santé, soi-disant, des populations du Nord, soit mise sous cloche pour le tourisme. C'était la mobilisation, il y avait eu la mort de Chico Mendes, il y avait Sting, etc. Et toute la gestion de la filière forestière a commencé à se créer dans les années 90, à la suite de cette mobilisation. Et au G7 de Houston en 1990, il y avait déjà des G7 et ça pouvait être utile, eh bien on a commencé à s'occuper de cette filière bois et de monter au niveau de l'ONU, parce qu'il faut monter ensuite au niveau de l'ONU pour avancer sur cette question-là.
Ce qui n'empêche pas les incendies aujourd'hui.
Non, mais
25 ans plus tard.
Oui, mais enfin, je veux dire, des incendies, il y en aura toujours. Il faut pas non plus être complètement irénique. Il y en a aussi, je le rappelle, en Asie du Sud-Est. Il y en a en Afrique. Il y en a là en ce moment en Angola, etc. Donc, je veux dire, on peut pas tout régler de façon définitive, encore une fois, en quelques clics.
Pierre Grosser, le ministre des Affaires étrangères iranien, hier a fait une visite express à Biarritz. Elle n'était pas prévue dans l'agenda pour rencontrer Emmanuel Macron. Une visite absolument pas placée sous le sceau du multilatéralisme, puisque même si Donald Trump avait été informé de la visite et que les diplomates allemands et britanniques ont été associés à une partie de la réunion, nous dit-on, eh bien Emmanuel Macron a finalement dit qu'il n'était pas porteur d'un message commun. Donc, à quoi ça sert ?
Alors, oula, ça sert à beaucoup de choses. En tout cas, c'est dans la continuité d'essais, et ça a été rappelé d'ailleurs par le président Macron, que de la part du Japon, de la part de la France aussi, pour essayer de calmer un peu les tensions dans la région, parce que je vous rappelle qu'au-delà de la question du nucléaire, qui est une grosse question, il y a deux autres questions que les Français mettent sur la table depuis longtemps, tout en soutenant l'accord qui a été signé en 2015. C'est la question des missiles iraniens, et puis surtout c'est la question des ambitions de l'Iran au Moyen-Orient. Et je vous rappelle que le contexte est quand même un contexte extrêmement dur, et ça on l'a pas beaucoup rappelé, c'est-à-dire c'est les bombardements israéliens sur des positions iraniennes, en Irak, en Syrie et au Liban. Et donc, évidemment, dans un contexte aussi d'élection en Israël, ce qui évidemment est toujours quelque chose qui peut inquiéter. Et donc, si vous voulez, faire venir le ministre des Affaires étrangères iranien, c'était aussi non pas pour régler cette question, parce qu'encore une fois, ça ne se règle pas en quelques jours, mais c'est d'essayer de faire des petits pas pour essayer de faire rentrer l'Iran dans les clous, puisqu'il les avait quittés il y a quelques semaines, et essayer évidemment de trouver une espèce de désescalade entre les Américains et l'Iran.
Donc cette visite était nécessaire et cette visite va contribuer à continuer.
On n'en sait rien. On n'en sait rien. La diplomatie, c'est ça. Vous tentez des choses, ça marche pas, mais si on peut essayer effectivement rester chez soi et attendre que ça passe.
Et pourquoi Donald Trump, lui, ne reste pas chez soi puisqu'il n'y croit pas au G7?
Je suis pas si certain qu'il y croive pas. Je pense que d'ailleurs il a géré un certain nombre de questions bilatérales à ce moment-là, parce qu'il est en train de négocier des traités bilatéraux en ce moment avec les Britanniques, parce que les Britanniques en ont extrêmement besoin, puisque maintenant
après
ils n'ont plus les traités. Voilà, après le Brexit, ils n'auront plus les traités de l'Union européenne. Il y a le grand traité avec le Japon qui est extrêmement important, un grand traité de libre-échange
qui a été beaucoup moins évoqué d'ailleurs lors de ce sommet, en tout cas dans les médias.
Tout à fait, mais qui est très très important. D'autant que, par exemple, il doit se retourner vers son opinion et surtout vers ses farmers, hein, ses agriculteurs, puisque les agriculteurs sont en train, en partie, de perdre l'accès au marché chinois. Donc, il faut leur ouvrir d'autres marchés, et notamment le marché japonais, qui traditionnellement est extrêmement fermé.
Pierre Grosser, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de l'une des idées fortes développées par les participants au contre-G7, cette idée de renforcer et de moderniser l'ONU pour en faire le seul cadre de toutes les discussions internationales, en disant voilà, c'est un cadre multilatéral fondé sur la solidarité et sur la réponse à l'urgence climatique, et ça vaut bien mieux que le G7.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps. Il y a deux types de critiques du G7, hein, très rapidement. Il y en a une très ancienne qui est de dire, le G7, c'est les plus riches du monde qui se partagent le monde, hein, d'une certaine façon. Et l'autre qui est assez contradictoire avec celle-là, de dire que, le monde a changé, qu'il faut inclure les Chinois, les Indiens, d'ailleurs qui étaient présents, et les émergents. Or, dans la réalité, il faut bien voir que c'est pas parce que vous êtes tellement plus nombreux que vous arrivez à mieux gérer les questions. Et l'ONU a énormément de défauts, a énormément de problèmes. La moderniser, on peut toujours le souhaiter, mais c'est très compliqué.
Merci. Vous ne souhaitez pas vivre dans un monde régi par l'ONU. Merci beaucoup. Non, c'est pas ce que vous avez dit.
Non, il faut pas exagérer. Si effectivement l'ONU marchait comme on pourrait le rêver, sans doute.
Merci beaucoup Pierre Grosser d'avoir été avec nous pour cette première des enjeux internationaux de l'année.
Plaisir.
Et bonne journée à vous. Il est 6h56 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie.
Eh bien, c'est bientôt.
Bonne rentrée.
Bonne rentrée, mais vous êtes déjà rentré depuis quelques jours.
De se retrouver ici.
Oui. Et alors, ça y est, depuis ce lundi, vous avez à nouveau des humeurs, parce que la semaine dernière, non.
Oui.
Et donc,
pas d'humeur.
C'est votre humeur du jour, Guillaume Erner. L'important, c'est plus de savoir où vous êtes parti.
Et oui, l'important, ce n'est plus de savoir où vous êtes parti. Désormais, le comment je suis parti prime sur le où je suis parti. Comment je suis parti, autrement dit, quel moyen de transport ai-je utilisé? Alors pour partir en vacances aussi, il importe d'être vertueux, d'éviter à tout prix les paquebots, hein, très immoraux, de n'utiliser l'avion qu'en cas d'absolue nécessité, tout transport aérien devant désormais être justifié, et la voiture, paradoxalement, se transforme dans ce contexte en un moyen de transport vertueux. Alors bien sûr, tandis que la majorité des mortels doit s'efforcer d'être moral, il existe également une petite partie de l'humanité qui aspire à la sainteté. Elle se targue d'être partie en vacances à pied, en bicyclette. Pourtant, la question de la moralité du transport aérien est loin d'être simple. Alors, deux théories s'affrontent, hein. Il y a la morale kantienne et le conséquentialisme qui s'intéresse aux conséquences des actes. Pour un kantien, les choses sont réglées, il ne faut pas prendre l'avion. Si plus personne ne prend l'avion, explique Kant, il n'y aura plus d'avions et alors les avions ne pollueront plus. Oui, mais pour un conséquentialiste, c'est plus compliqué que cela, car que deviendrait le siège que vous êtes censé occuper dans un avion si d'aventure vous décidez de ne pas l'occuper? Autrement dit, puisque l'avion va partir de toute façon, pourquoi ne pas en profiter pour le prendre? Mais pas du tout, répond Kant, puisqu'à ce compte, là, on va tout justifier, y compris le crime, puisque le crime existe, pourquoi ne pas crimer? pour quelqu'un qui s'en tiendrait aux conséquences de ses actes. En revanche, le bilan moral de la décision de prendre l'avion est nul, si et seulement si on est certain que l'avion partirait, que l'on décide ou non de le prendre. Reste une solution, ne pas prendre l'avion, ne pas prendre le bateau, bref, ne rien prendre, ne pas partir du tout, cesser de travailler pour ne pas polluer, mais rester chez soi dans son salon. Voilà en tout cas un dilemme moral nouveau, maintenant que l'on sait que les vacances certes peuvent vous reposer, mais fatigue la planète.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bon réveil et surtout bonne rentrée à tous. On est ravis de vous retrouver sur France Culture. On vous promet une rentrée différente des autres, une rentrée avec une histoire différente des autres. L'histoire de 1989, la chute du mur de Berlin, la fin du bloc de l'Est. Toute cette semaine sur France Culture, nous reviendrons sur cet événement et l'on commence dans les matins avec un invité absolument exceptionnel, le philosophe du politique Francis Fukuyama. Il est auteur d'un livre déterminant la fin de l'histoire et le dernier homme. Francis Fukuyama est notre invité aujourd'hui. Il va revenir sur la suite de la fin de l'histoire. Un titre qui a fait polémique, un titre qui a été probablement mal compris. Allez, ravi de vous retrouver. On vous promet un réveil intéressant, un réveil informé avec 2 heures de réflexion et d'actualité. Ça commence tout de suite à 7h du matin sur France Culture.